Robert. Ça ne va pas ce soir. Elle a laissé entrouverte la porte de la salle de bain et je vois que ça ne va pas du tout. Elle avale un somnifère, puis un autre, s'observe dans la glace de la pharmacie d'un air méfiant, en plissant les yeux. Lève lentement les deux mains et les plaque de part et d'autre de sa tête, aplatissant ses cheveux qui grisonnent un peu. Malara qui, tout doucement, vieillit. Voyant soudain mon reflet dans la glace, elle se retourne, mauvaise. « Si la petite doit aller à Berlin deux fois par mois, » dit-elle, « il faudra que tu augmentes notre pension. L'avion, ça coûte cher. » Pourquoi me parle-t-elle sur ce ton? Je tombe des nues. Il n'y a jamais eu de conflit d'argent entre nous. Bien sûr que je m'arrangerai. Je trouverai ce qu'il faut, ça va de soi. Pourquoi prend-elle tout à coup ce ton revendicatif, comme entre divorcés ordinaires, divorcés se détestant? Mais oui, mon amour, lui dis-je, cherchant où, sur son corps, je pourrais poser une main caressante. Mais son corps est incaressable ce soir, hérissé de pointes invisibles. Il n'y a pas de problème. C'est ta phrase préférée, n'est-ce pas, Robert? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si on le répète assez souvent, on finit par mourir et il n'y a plus de problème. Mais qu'est-ce que tu as, Lara? Je n'ai rien. Tu m'entends? Je n'ai rien. Tu souffres d'insomnie en ce moment, m'a dit ta mère. J'ai horreur qu'on parle de moi derrière mon dos. Lara, je t'en prie, on ne te veut que du bien. Moi, personnellement, je te veux beaucoup de bien. Si je pouvais t'en faire un tant soit peu, et je lui ouvre les bras tout en sachant d'avance que la réponse sera non. Non, je n'ai pas envie. C'est vrai que je ne suis pas dans mon assiette ce soir. Tu as encore les ordonnances qu'il te faut? Oui, Robert. Tu es gentil. Eh bien, bonne nuit alors. Bonne nuit, mon chéri. Elle m'embrasse comme si j'étais son frère et s'enferme dans sa chambre. Plus tard, de la chambre voisine où je me console avec un roman policier, je l'entends qui bouge, soupire, se relève, va à la salle de bain, ouvre et referme la pharmacie. Cet acharnement à dormir. Est-il possible qu'après toutes ces années, elle retourne encore dans ses rêves à la Chambre Blanche? Une fois, je ne sais plus si c'était avant ou après notre divorce, elle m'a fait cet aveu qui m'a donné froid dans le dos. « C'est là que j'ai été heureuse, » m'a-t-elle dit. « Là que pour la première fois de ma vie, je me suis sentie nécessaire. Quelqu'un avait besoin de moi et de personne d'autre. La vie exigeait de moi une chose que j'étais en mesure de fournir. Je n'avais aucun doute là-dessus. Ce n'était pas comme le reste. Le piano, ma mère, même toi, Robert. Je ne passais pas mon temps à me demander si j'allais être à la hauteur. J'étais ce qu'il fallait que je sois. Je n'ai jamais oublié ces mots. La grande maison sombre au milieu du jardin sombre, et la pluie au dehors, encore, glissant doucement sur les feuillages, sur les roses, sur l'herbe pénétrant dans le sol, et quatre individus, quatre mondes, quatre flammes de conscience enfermées chacune dans sa chambre, quatre lampes qui s'allument et s'éteignent sur la façade noire dans le noir, vue par personne. Maya, qui dort à point fermé. Moi qui, à moitié distrait, suit les péripéties d'un détective new-yorkais. Lara qui se tourne et se retourne dans son lit. Et Sophia. Que fait-elle, Sophia, tout là-haut?
Sophia. Merci, mon Dieu. Merci que Maya ait réussi son audition. Je savais que tu m'accorderais cela. Je suis contente. Merci aussi pour cette bonne plaquette de chocolat. C'est vraiment délicieux. Pardonne-moi si je ne me relève pas après pour me laver les dents une deuxième fois. J'aime tellement ça, manger un peu de chocolat avant de m'endormir. Mais j'ai pas la force de me relever. Tu comprends, hein? De toute façon, au point où j'en suis, c'est pas des dents que je vais mourir. Encore une chose, si tu peux, Fais en sorte qu'il n'arrive pas malheur à Larissa. Si tu peux, hein. Je sais qu'on n'a rien pour rien. Allez, c'était une bonne journée. Merci. Bonne nuit.
Lara. Vis, ma fille. Respire, je t'en supplie. Non seulement tes yeux commencent à voir, mais ta petite main se resserre maintenant sur mon doigt. Je ne connais pas de sensation plus exquise. Bientôt tes lèvres se serreront sur mon sein aussi, n'est-ce pas? Et on pourra s'en aller. Tu verras. Dès qu'on sera à la maison, je te présenterai les pianos les uns après les autres. Ils ont chacun son tempérament, ses qualités et ses défauts. Au premier étage, il y a le vieux Steinway droit de Sophia. Quand tu auras 3 ans, on le mettra dans ta chambre. Et puis, au salon, le Yamaha et le magnifique Pleyel demi-queue. C'est le Pleyel que j'aime et que je déteste le plus. Quand on le regarde depuis la cuisine avec son couvercle relevé, on dirait une énorme feuille noire. Ou un pétale noir. Ou alors le pan de jupe noire d'une danseuse de flamenco. Oh, elle m'impressionne tant, cette grâce dure et figée. Cette insolence immobile. Une fois, j'ai rêvé qu'en ouvrant le Pleyel, je trouvais ma mère couchée à l'intérieur, toute recroquevillée et desséchée, les yeux fermés. J'ai compris qu'elle était morte et que le piano était son cercueil. Mais en même temps, elle me parlait. J'entendais sa voix me haranguer. « Je t'ai bien dit que la musique était une question de vie et de mort, » disait-elle. « Et tu n'as pas voulu me croire. Et voilà, c'est bien fait pour toi. » Tu ne feras jamais partie des élus. C'est ainsi. Tu n'as à t'en prendre qu'à toi-même. Mais toi, Maya, jamais tu ne te sentiras coupable en t'installant devant un clavier. Ah, comme tes petits doigts seront vifs et fulgurants sur les touches. Serre mon pouce. Oui. Fort. Fort. C'est ça. Elle se porte bien, n'est-ce pas, docteur Fabien? Elle a bonne mine, vous ne trouvez pas? Elle fait des progrès. Elle survivra maintenant, c'est sûr, n'est-ce pas? Faut-il vraiment lui faire encore une piqûre? J'ai si hâte de lui donner le sein. Vous pensez que ce sera pour bientôt? Ne pouvez-vous au moins me donner une idée de sa date de sortie? Je fais tout ce qu'on me dit de faire, tout ce que je peux. Je l'encourage, je lui parle, je porte un masque pour ne surtout pas lui transmettre mes microbes, mes problèmes, mes névroses. Je vous assure, je ne l'embrasse même pas, ma fille. D'ailleurs, à propos de microbes, savez-vous que tout à l'heure j'ai vu un papillon, ici, dans l'unité des soins intensifs? Mais si, je vous jure. Un petit papillon blanc qui voletait de ci de là dans la pièce? Non, non. C'est absurde. Vous avez raison. Non, je sais. Je sais bien. La chambre est hermétiquement fermée et il est impossible que des insectes y pénètrent. Oui, je me suis imaginé des choses. Pardon. Je suis si fatiguée, docteur Fabien. Vous comprenez? Si fatiguée et si fiévreuse.
Benjamin. Fier comme coq en pâte, l'oncle Lucien. Une église lui a passé une commande pour 3 vitraux. Il commence par de simples croquis sur papier, puis enchaîne avec une maquette à l'échelle, colorée à l'aquarelle. La libellule ne décolle pas de son atelier, complètement fascinée par ses dessins. Lui, là, pourquoi il est plié en deux comme ça? Lui, c'est Saint-Séraphin. Au départ, c'était un grand jeune homme beau et fort. Il vivait dans la forêt, passait ses journées à abattre et à débiter les arbres, et dormait 2 heures par nuit, agenouillé sur une pierre. L'été, il travaillait dans les marais, exprès pour que les moustiques le piquent. Ça s'appelle Mazo, ça, non ?
Lucien se marre. De nos jours, on dirait peut-être ça comme ça. Mais Séraphin avait envie d'imiter Jésus, donc de souffrir autant que lui. Un jour, des bandits sont venus dans la forêt pour le voler, et comme, dans son imitation du Christ, Séraphin a refusé de résister aux méchants, il leur a donné son seul bien, à savoir, sa cognée.
Ah, c'est génial ! Alors ils l'ont tapé avec !
Exactement. Ils l'ont battu comme plâtre et laissé pour mort. Mais il a fini par se ranimer malgré tout, et il a réussi à se traîner jusqu'au couvent. Le reste de sa vie, il a dû marcher comme ça, courbé en deux, plié sur un bâton.
Et celui-là, le petit bébé, c'est Jésus ? Pourquoi il détourne la tête du sein de la Vierge ? Il aime pas son lait ?
Non, non, c'est pas Jésus, ça. C'est Saint-Ange. Regarde, sa mère est très âgée. C'était une juive convertie. Et on dit qu'elle était tellement vieille qu'elle aurait pu être son arrière-grand-mère.
Ah bon ? Et c'est pour ça qu'il détourne la tête ? Parce qu'elle est vieille et moche ?
Maya, tu devrais avoir plus de miséricorde pour nous autres vieux. Non, c'est parce que, tout bébé déjà, Saint-Ange se mortifiait. Il refusait le sein maternel chaque vendredi par esprit de pénitence.
C'est pas vrai !
Et alors ? Notre capacité de dire des choses pas vraies. N'est-ce pas l'orgueil de notre espèce ?
J'ose pas le contredire, oncle Lucien. Il est trop bardé de diplômes et de gentillesse. Mais enfin, les papillons mentent bien, eux aussi. C'est quoi l'homochromie ? C'est quoi la livrée dissuasive ? Si c'est pas du mensonge artistique. Le Caligo Prometheus, par exemple, qui proclame à ses ennemis « Je suis une tête de chouette, je vais vous manger ». Ou la Samia Cynthia, qui ressemble à un dragon épouvantable. Orgueil de notre espèce, mon œil.
Et celle-là, qui c'est ? Elle est affreuse.
Ça, c'est Sainte-Germaine Cousin, une petite bergère de la Haute-Garonne. Elle était si laide et difforme que son père et sa belle-mère la traitaient comme un chien, la faisant dormir dans l'étable et ne la nourrissant que de pain sec. Son travail était de garder les moutons de son père. Chaque jour, elle s'absentait 2 heures pour assister à la messe, demandant à Dieu de surveiller le troupeau pendant ce temps. Et elle n'a jamais perdu un seul mouton.
« Je savais pas qu'il y avait tant de saints !» s'exclame la libellule. « Moi, je connaissais que les 4 évangélistes et puis Jeanne d'Arc. »«
Non, il y en a des centaines, » dit Lucien. « Certains célèbres et d'autres obscurs. » Moi, j'aime bien peindre la vie des petits saints de rien du tout.
Mais la sauterelle vient de sauter. Maintenant, c'est moi qui vais te raconter quelque chose.
Elle file dans la pièce à côté où se trouve le piano, et quelques secondes plus tard, les notes commencent à nous titiller les tympans. Jamais entendu ça. C'est comme une chose qui arrive, qui t'arrive, te tombe dessus et tu n'y peux rien. C'est comme les vers à soie quand ils se mettent à cracher leur bave. Ils se dressent comme ça et balancent la tête de droite à gauche en faisant des 8. Comme Lucien fait des 8 en ce moment avec son blaireau pour harmoniser les zones claires et les zones plus foncées. Il reprend le gros pinceau et passe une couche claire de grisaille. Le pinceau fin pour les visages, puis le blaireau à nouveau. Faut faire vite, faut être sûr de soi. On dirait que ses mains travaillent toutes seules, commanditées de loin, pas de sa tête, mais de notre lieu. D'on ne sait où. Comme les vers qui font la soie. Si fine et forte sans le savoir. Et comme ces notes qui arrivent de très loin, elles aussi, d'un autre monde. Si sûre d'elle et de ce qu'elle raconte, c'est incroyable.
Bon, c'est pas tout ça. Faut que j'aille les voir, mes vers. Que je leur donne leur boostify quotidienne.
C'est dingue ce qu'ils peuvent être gloutons.